Avant de commencer, je vous rappelle, hein, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, que Franck Guéry nous fait l'amitié de venir le 22 juin, 22 juin à 19h, pour une conversation avec moi sur Paris, ses projets en France. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait du monde, venez à l'avance. Les places ne seront pas réservées, sauf peut-être pour quelques super VIP. Et le 19 juin, toute la journée, colloque de 9h à 18h30 sur l'architecture des musées, avec un programme que vous pouvez trouver sur le site du collège. Donc nous avons deux rendez-vous, outre les deux prochaines et dernières conférences dans ce cycle. Donc aujourd'hui, épisode numéro 7, Guéry et le gratte-ciel. Je voudrais commencer par un retour en arrière à la semaine dernière, car j'avais oublié, pressé par le temps, je n'avais pas pu vous parler de l'étrange galerie pisciforme, en forme de poisson, du Guggenheim de Bilbao, galerie qui était née à la demande de Thomas Krantz, le directeur du Guggenheim, qui avait exigé une galerie longitudinale et située au rez-de-chaussée. Sans doute avait-il quelque chose derrière la tête. En tout cas, il finit par commander au sculpteur Richard Serra cette œuvre, ce serpent double que vous voyez à gauche. À droite, vous voyez l'installation d'une exposition beaucoup plus complexe d'œuvres de Serra qui aura lieu dans cet espace. Serra aurait pu être heureux, et c'est là-dessus que je voulais venir. J'ai déjà parlé évidemment du rapport de Guéry aux artistes, un certain rapport fait d'envie, finalement, envie de la liberté des artistes, envie de certains effets, j'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs, envie de la légèreté du coup de pinceau, ce qui est difficile quand on assemble des tôles, même des tôles de titane. Donc Guéry était envieux dans une certaine mesure des artistes, il avait travaillé avec certains d'entre eux, et il a notamment travaillé avec Serra, rappelez-vous, de leur projet commun Bridges en 1980. Et ici, Serra a une réaction extrêmement négative, une réaction publique très critique vis-à-vis du Guggenheim de Bilbao, qui se résume par cet aphorisme. Je croyais jusqu'ici que les vedettes dans les musées, c'était les œuvres d'art et pas les architectes. Et il continue dans un entretien avec le New Yorker. Maintenant, nous avons des architectes qui se baladent en disant « Je suis un artiste, mais ça ne me plaît pas. Je ne crois pas que Frank est un artiste. Je ne crois pas que Rem Koolhaas soit un artiste. » Bien sûr, il y a des superpositions de langage entre la sculpture et l'architecture, comme entre tout type d'activité humaine, mais il y a aussi des différences qui durent depuis des siècles. Donc, Serra, extrêmement négatif, et ce qui marqua une rupture, non pas totalement définitive, mais une rupture très forte entre les deux hommes, alors que Serra, jusque-là, avait l'habitude de venir souvent dans l'atelier de Guéry pour voir, soulever le couvercle des marmites et voir ce qui s'y mijotait. Alors aujourd'hui, le gratte-ciel. Évidemment, on peut dire que c'est le rêve ou le fantasme de tout architecte américain, mais aussi tout architecte du monde, de construire un gratte-ciel et construire un gratte-ciel à New York. Il a fallu du temps pour que Guéry y arrive, puisque ses premiers projets à New York datent des années 80. Donc il aura fallu presque, je dirais, 25 ans pour qu'il y parvienne, avec cette tour dont je parlerai tout à l'heure, qui est une tour d'habitation située downtown. Mais je voudrais tout d'abord, très rapidement, sans vous proposer une inutile petite histoire du gratte-ciel que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies et les bonnes bibliothèques, rappeler que le type architectural du gratte-ciel, de l'édifice à grand nombre de hauteurs, qui prendra un certain temps à être dénommé gratte-ciel. La sémantique est intéressante. Initialement, le terme n'était pas absolument unanimement accepté. On parlait de cloud pressers, de fer à repasser les nuages, dans les années 1890 à Chicago, tout autant que de gratte-ciel. Je vous rappelle que le gratte-ciel, on en méconnaît l'origine, Le terme de gratte-ciel était un terme utilisé dans la marine à voile pour dénoter la petite voile la plus haute du bateau, celle qui, justement, grattait le ciel. Et ce n'est pas un hasard si le terme naît à New York, où les gratte-ciels se mesurent, les premiers se mesurent effectivement aux mâtures des bateaux amarrés sur les rives des deux fleuves et dans la baie. Donc il y a une histoire new-yorkaise du gratte-ciel, il y a une histoire chicagolaise du gratte-ciel, et notamment illustrée par les bâtiments et le discours de Louis Sullivan, par lequel je voudrais commencer. C'est Louis Sullivan qui, dans un texte mémorable de 1896, intitulé le grand bâtiment de bureau considéré d'un point de vue artistique, essaye de codifier ce qu'un gratte-ciel doit être. C'est dans ce texte qu'il propose l'aphorisme célèbre « la forme suit la fonction », mais surtout, il s'intéresse au gratte-ciel dans sa grandeur, dans sa verticalité. Comment ce bizarre sommet de la ville peut-il prêcher l'évangile pacifique du sentiment, de la beauté, le culte d'une vie plus élevée? La solution est simple, écrit Sullivan. Il doit être haut, que chaque pouce en soit haut. It must be tall, every inch of it tall. Donc c'est la force et la puissance de la hauteur, de l'altitude, qui doit permettre d'en faire cet élément nouveau des villes. Et Sullivan continue en s'intéressant à ce qu'on peut appeler la tripartition du gratte-ciel, qui suit celle des colonnes classiques, mais s'en distingue par pas mal d'aspects par ailleurs. L'idée d'une base qui est caractéristique des étages bas du bâtiment, l'endroit où le gratte-ciel, où une intersection se produit entre les alignements commerciaux de la ville et le gratte-ciel, ce qui, on le sait, a été complètement loupé à la Défense et dans ce genre de quartier. La partie principale qui suggère, écrit Sullivan, la série monotone et ininterrompue des étages de bureaux, et enfin l'entablement ou le sommet qui doit transmettre la puissance et la luxuriance du grenier, du dernier étage. Et donc, il se propose de codifier le gratte-ciel, de le considérer de cette manière tripartite, sans par ailleurs être complètement dogmatique quant à son assimilation à une colonne. Ces théories, et je ne vous parle pas des gratte-ciels éclectiques du début du XXe siècle, ou des gratte-ciels art déco, cette position, elle va rester en vigueur, elle va être appliquée avec plus ou moins de bonheur jusqu'aux années 50. Et c'est là, au moment où Gehry est étudiant ou jeune professionnel, qu'une révolution intervient avec, par exemple, ces deux gratte-ciels bien connus de New York, avec le Lever House de Gordon Bunshaft, avec le Seagram Building. Ce sont des gratte-ciels qui continuent à avoir effectivement une base, mais vous voyez que cette base, notamment le Lever, continue à avoir une articulation à la ville, mais dont le sommet, si on le compare par exemple au Waldorf Astoria qui est derrière, dont le sommet finalement est une répétition de la trame verticale. Donc le gratte-ciel tend à devenir un prisme assez monotone, magnifique dans ces deux cas, mais assez monotone. C'est ce que les postmodernes critiqueront et que certains architectes s'efforceront de dépasser. Et je prends ici rapidement deux exemples de ces critiques et de ces démarches alternatives qui apparaissent à la fin des années 70. C'est le moment où Gehry construit sa maison, c'est le moment où il réalise le Santa Monica Place à Santa Monica. D'une part, le geste des postmodernes, dont Johnson est un des héros à UTS, qui introduit un fronton, transforme le gratte-ciel en une espèce de pièce d'objet mobilier géant, lui rend une certaine présence sémantique, le gratte-ciel comme porte, le gratte-ciel comme couronnement. en contraste avec l'empilement régulier modulaire des étages de bureau des projets précédents. Et une autre démarche qu'il ne faut pas oublier, elle est presque strictement contemporaine, et elle va évidemment dans une toute autre direction, c'est celle de quelqu'un comme Norman Foster, qui, je dirais, déconstruit à partir de l'expérience d'un projet de Jean Prouvé, déconstruit le gratte-ciel. Imagine le gratte-ciel creux, la banque de Shanghai et Hong Kong, est construite autour d'un grand vide, d'un grand atrium intérieur. Donc c'est dans ce moment-là que se rencontre, se croise, je dirais, à la fois des démarches régressives comme celle des postmodernes, qui ne dureront pas très longtemps, et des démarches complètement révolutionnaires pour repenser le gratte-ciel. L'histoire a continué, et je ne souhaite pas la commenter. La production de gratte-ciel est considérable dans le monde aujourd'hui, notamment dans le Golfe, notamment en Chine, et un peu dans la vieille Europe, où, par exemple, la skyline de Londres est une sorte de champ de bataille pour les esthétiques les plus contestables et les projets parfois les plus intéressants, comme celui du shard, de l'éclat de verre de piano, qui a beaucoup de qualité. Alors Gary, je reviens à lui, fait son premier projet de petit gratte-ciel en 1981. J'ai déjà parlé de ce projet parce que c'est une des premières apparitions du thème du poisson, un poisson vertical, en l'occurrence. C'est un projet pour une ville moyenne du Midwest dans lequel il s'agit d'assembler des immeubles de bureaux et peut-être de logements et surtout de donner un accent avec un hôtel qui se singularise en étant un poisson debout, la gueule ouverte. C'est le début. Dès ce moment-là, les projets se succèdent, pratiquement tous sans résultat. Très rapidement, voici le projet de Turtle Creek à Dallas, au Texas, qui nous montre déjà quelques-unes des idées que Gary va mettre en œuvre. Gary, en effet, évidemment, il ne répétera pas les formes du Seagram ou de Lever. Il n'adhère en aucune manière à cette esthétique. Dans le même temps, il va s'intéresser à faire du gratte-ciel, à faire ce qu'il a fait avec les habitations, c'est-à-dire à fragmenter le volume du gratte-ciel, c'est-à-dire en fait à rompre avec les règles traditionnelles et conservatrices des promoteurs et des architectes de gratte-ciel, pour qui le mot d'ordre, selon le joli titre d'un livre de Carol Willis, qui est une petite histoire du gratte-ciel, ces promoteurs pour lesquels le slogan n'est pas « Form follows function », mais « Forms follows finance ». La forme suit la finance, c'est-à-dire le fait que les gratte-ciels sont faits essentiellement pour être des immeubles locatifs et doivent être standardisés pour s'adapter au marché des bureaux, essentiellement. Donc vous voyez que déjà dans ce projet qui compte un hôtel et des bureaux, Gary ne traite pas du tout ces bâtiments comme des parallélépipèdes, mais introduit des déhanchements, introduit des superpositions complexes, fragmente le volume du bâtiment que vous voyez à droite, crée une espèce de foisonnement de bâtiments plus complexes au niveau du sol. Donc il crée une petite cité verticale dans laquelle on retrouve certains des traits de ces projets par ailleurs. Voilà un croquis qui nous montre, on en verra d'autres, qui nous montre comment dès ce moment, Gary s'intéresse beaucoup aux formes de sédimentation des étages des bâtiments. Plutôt que de les penser comme c'était le cas avec Lever ou Seagram, comme une sorte d'extrusion d'un plan unique qui se prolonge sur des dizaines d'étages, l'idée d'opérer par sédimentation des tâches qui peuvent être différentes. Et c'est un peu avec ces petits déhanchements qui deviendront plus importants par la suite ce que ce projet commence à montrer. D'autres projets encore dans lesquels, je dirais, les gratte-ciels naviguent en escadrille, c'est un projet pour Burbank, qui est une ville de l'agglomération de Los Angeles, pour NBC, réseau de télévision. Le dessin à droite nous montre une espèce de conversation entre des robots. On a l'impression que ce sont des robots qui se parlent. Et vous voyez, en fait, à quoi cela correspondra dans cette maquette, donc au groupement d'un ensemble de petites tours autour d'un, autour d'équipements collectifs situés au centre. Gary continue la recherche engagée à Dallas, ici dans la lignée de ce que l'on voyait à Dallas avec le bâtiment de droite sur cette photo. C'est un projet pour un promoteur de Boston du nom de Richard Cohen, pour lequel Gary avait réaménagé un premier bâtiment de bureau. Ici, vous voyez où va la recherche. On retrouvera ces éléments. Donc, un, la partie médiane du gratte-ciel, celle qui est en général, celle qui, pour Sullivan, est la moins intéressante, hein, celle qui est la série, je cite Sullivan, monotone et ininterrompue des étages de bureau. Eh bien, elle n'est pas ininterrompue, elle est interrompue à certains moments, elle n'est pas si monotone que cela. Et vous voyez déjà apparaître cette idée qui se développera d'un sommet qui a une sorte de mouvement, une sorte de dynamique par opposition à l'empilement vertical et des niveaux bas qui, eux, sont différenciés. Ici, une sphère, pensée à la maison Schnabel et à son dôme en cuivre. Donc, Gary recycle, comme souvent chez lui, des éléments d'autres types de projets pour avancer sur sa voie. Voici d'autres croquis de ce projet. On voit ici qu'à un moment donné, la tentation est celle de faire un empilement hiérarchique, d'autres idées apparaissent, celle d'un porte-à-faux, par exemple, peut-être celle d'un dialogue entre deux structures verticales, pendant que ce projet se développe. En 1987, pour la première fois, Gary travaille sur un immeuble en hauteur à New York, et c'est un projet tout à fait dans un lieu tout à fait important, un lieu très problématique de New York, dont le destin n'est toujours pas résolu, le Madison Square Garden, où sont superposés Pennsylvania Station, sans doute la plus horrible station gare de voyageurs du monde, avec un plafond tellement bas et oppressant, une gare tellement horrible que c'est là que Louis Kahn est mort, dans les toilettes, sans doute pas par hasard, dans ce lieu totalement déprimant. Et donc c'est déjà un projet qui n'est pas réglé aujourd'hui, les projets continuent à s'amonceler à propos de Penn Station aujourd'hui. Donc il s'agissait de refaire Penn Station et de construire un immeuble de bureau qui aurait payer la reconfiguration de la gare, évidemment, c'était cela l'idée. Gary travaille, c'est important, pour la première fois avec une grande agence new-yorkaise, qui est l'agence SOM, Skidmore, Owings & Merrill, mais ce n'est plus le SOM de Bonshaft, qui a fait de si beaux bâtiments, c'est le SOM, de David Childs, qui est un estimable architecte, mais dépourvu de la brillance et peut-être parfois du caractère iconoclaste de Bonshaft. C'est David Childs qui, au sein de SOM, va initier Gary au secret du gratte-ciel. Le gratte-ciel qui est un programme pointu en termes techniques, en termes de résistance au vent, d'étanchéité des façades, en termes d'élasticité d'un bâtiment qui bouge, qui se déplace sous l'effet du vent et sous les effets de la chaleur et du froid, un bâtiment qui pose des problèmes de rapidité de circulation intérieure, de sécurité incendie. C'est un programme extrêmement technique. Et donc Gary commence à approcher ce programme. Et vous voyez ici deux maquettes légèrement différentes. Le socle appartient à la gare. Et vous voyez une des solutions qui est de faire une sorte de poisson vertical qui viendrait en contrefort relier la partie basse ici, la partie plus haute du bâtiment. Quant au couronnement, il est dans une sorte d'équilibre instable, sans doute pas encore au point dans cette variante. Alors, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de croquis qui nous montrent à nouveau l'hypothèse de l'empilement, l'hypothèse du découpage des retraits qui fait penser au RCA Building du Rockefeller Center, qui n'est seulement à une vingtaine de rues de distance. Et à nouveau, vous voyez cette idée d'un couronnement dynamique, une petite flèche ou une petite flamme en haut du bâtiment qui, évidemment, a comme objectif de s'insérer dans la conversation des couronnements de gratte-ciel de Manhattan. Un autre projet qui est plus développé, celui-ci, qui correspond à une commande tout à fait réelle, c'est un projet pour Cleveland, Ohio, qui n'est pas une ville extrêmement verticale. À Cleveland, Gary avait un client, Peter Lewis, qui était le président de cette compagnie d'assurance, et Lewis commande un gratte-ciel à Gary, dans un premier temps, selon son biographe, selon Goldberger, est très réticent pour faire le projet, suggère d'aller chercher Philip Johnson, qui suggère d'aller chercher Peter Eisenman. Finalement, Gary se résout à faire le projet. Et vous voyez donc que le dispositif qui s'amorçait au Madison Square Garden se précise, donc différents solides verticaux traités de manière différente, l'un plaqué en pierre, l'autre en métal. Et vous voyez que la prolifération des équipements collectifs ou des éléments urbains au niveau du sol devient plus intense, pendant que la superstructure est tout à fait complexe. Vous voyez ici une superstructure qui est de l'ordre du gag imaginé pendant la confection de la maquette, qui consiste à poser un journal plié en haut de l'édifice, ce qui vous donne au passage une idée de la structure. Ce journal plié donne à Oldenburg, avec qui Gary dialogue à propos de ce projet, l'idée de poser un trombone géant sur le sommet du bâtiment. Mais ce gratte-ciel, qui ressemblait plus à une esquisse et à un ensemble d'idées plus ou moins bien ficelées ensemble, ne va pas convaincre le board, le conseil de Progressive, en dépit de son nom. C'est une compagnie qui est conservatrice quand il s'agit de ses ressources immobilières, de ses immobilisations physiques, et donc elle ne donnera pas suite au projet et conseillera à Gary de travailler plutôt sur la maison de son patron, ce qu'il fera pendant plusieurs années. Un projet dont j'ai parlé, voilà quelques éléments de réflexion. Vous voyez à nouveau l'idée de la prolifération des étages bas du bâtiment, hein, tel qu'on pouvait la voir sur la maquette, prolifération et puis émergence très forte de cet élément vertical qui ressemble presque à une fusée sur son pas de tir. Un projet dont j'ai parlé la semaine dernière, que j'ai mis en relation avec une étape très importante dans la transformation de Bilbao, c'est ce projet pour le Rapid Transit District de Los Angeles. Intéressant pourquoi ? À cause de la manière dont sont résolus les deux problèmes structurels du gratte-ciel, le haut et le bas. En bas, vous voyez que ce gratte-ciel, dont le corps central est particulièrement, pour Gary, particulièrement banal, ce gratte-ciel sécrète des formes qui vont toucher le sol, qui vont abriter des petits locaux au niveau des rues. Et puis, vous voyez au sommet que ce mur rideau, c'est-à-dire ce mur non porteur en panneau d'acier, se déhanche et se déchaîne, sort du plan de la façade pour devenir beaucoup plus lyrique. Donc, c'est un projet important dans l'ensemble de la réflexion de Gary, sans résultat. Un autre projet qui n'est pas réalisé non plus, mais qui est intéressant pour une autre raison, pour l'Alameda à Mexico. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une famille de gratte-ciel. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir Gary travailler à la différenciation des formes. Vous le voyez très bien sur ce croquis qui a une dimension presque anthropomorphique. On a l'impression que ces gratte-ciels sont des personnages avec des pantalons très larges, assis côte à côte sur un banc, en train de regarder quelqu'un. Et vous voyez, presque littéralement ici, l'idée de donner à chacun de ces bâtiments une expression différente. Gary utilise un terme, souvent un terme pour qualifier ces bâtiments. Il parle du langage corporel, du body language de ces bâtiments. Tel bâtiment a un langage particulier. Ici, vous voyez sans doute une très bonne illustration de cette idée. Ces quatre bâtiments tirés personnages pour chacun d'entre eux, sans que l'on sache bien de quoi ils doivent être construits. On peut imaginer un mur rideau pour celui du milieu, mais pour les autres, les choses sont assez mystérieuses. Ils sont construits pour le moment avec un feutre et pas vraiment avec des matériaux de construction. On voit quand même apparaître cette idée du body language de façon assez claire. Et ces bodies, ces corps, entrent dans une espèce de transe dans ce croquis. On les voit se tordre, qui est peut-être plus un croquis polémique qu'un véritable croquis avançant sur la voie d'un projet faisable. Vous voyez à droite aussi comment leur positionnement au sol, sur ce petit croquis de plan masse, comment leur positionnement au sol est différent. Ils ne sont pas alignés, ce sont des bâtiments qui sont inscrits dans une sorte de relation à quatre. Et c'est une idée qui continuera à être présente jusque dans les derniers projets, même si parfois le nombre des gratte-ciels se réduit à deux ou trois. Un projet intéressant qui n'est pas complètement un gratte-ciel, encore que, puisque ce n'est pas un empilement de locaux de bureaux, c'est un projet monumental et sculptural que Gehry entreprend sur Times Square à New York. Bon, donc Times Square, la place avait pris le nom, c'est une sorte de métonymie, une métonymie même au sens fort du terme. La place prend le nom de l'immeuble du New York Times qui est construit, je crois, en 1904, ici, qui est qui est un immeuble de proue, comme le Flatiron un peu plus bas. Un immeuble qui aura bien des mésaventures. Vous le voyez ici travesti dans un espèce de classicisme bonaire assez maladroit, qui sera plus tard complètement recouvert par les publicités. Donc c'est un lieu très complexe qui vient d'être reconfiguré par l'équipe norvégienne de Snøhetta. C'est une autre histoire. Que fait Gehry? Vous le voyez ici, il garde l'édifice initial du Times, mais il le met à nu, il le déshabille. Vous en voyez la structure. Donc il démonte toute l'enveloppe de céramique, de terre cuite, autour de ce bâtiment, et il en fait, et il l'enveloppe. Il l'enveloppe dans une grande forme textile sur laquelle ensuite les inévitables publicités viendraient se mettre. Voilà, première image. Voici d'autres images. Celle-ci est assez intéressante puisqu'elle nous montre vraiment une forme textile très, très proliférante, mais qui est une forme opaque, alors qu'ici, on peut imaginer que l'idée de Gehry était d'utiliser la maille d'acier qu'il avait pratiquée à Los Angeles. Donc un projet intéressant et provocateur. Une des idées était d'insérer, comme on le trouve sur les hôtels de ville des petites villes allemandes, un carillon et un petit manège avec les personnages de Warner, car le projet était commandité par la société Warner de Hollywood. Donc l'idée de faire tourner les personnages de Warner au-dessus de Times Square, certains éléments étaient tout à fait... Ce projet était tout à fait divertissant. Un petit excursus qui nous renvoie aussi au cours de la semaine dernière. Gehry travaille à la fin des années 90 sur un très ambitieux projet à New York. Et donc son rapport à la ville se construit et aux conditions de construction à New York qui sont extrêmement difficiles. New York est une ville où l'urbanisme est réglé par des principes extrêmement spéciaux. New York ne connaît pas, par exemple, de permis de construire. Vous voulez construire un gratte-ciel, vous n'avez pas de permis de construire à déposer. Vous devez simplement démontrer au service d'urbanisme de la ville que votre bâtiment respecte les règles d'urbanisme. Et comment cela se passe-t-il? Ça n'est pas l'architecte qui parle au service de la ville, c'est l'avocat de l'architecte, ou plutôt l'avocat du promoteur, qui parle à l'avocat de la ville et qui parvient ou pas à démontrer que son bâtiment est conforme. S'il n'est pas conforme, il demande une modification du zoning et une enquête publique est engagée qui aboutit, dans beaucoup de cas, à modifier le zoning moyennant souvent quelques concessions. C'est ainsi, je vais continuer cet aparté très important, que Jean Nouvel devra abandonner 100 des 400 mètres de la tour qu'il avait dessinée à côté du musée d'art moderne de New York et qu'il avait sans doute pensé pouvoir céder pour réussir à faire son projet. Il abandonna ses 100 mètres à la suite d'une enquête publique déclenchée par cette demande de modification du zoning. Donc, l'urbanisme à New York, c'est autant une affaire d'avocat qu'une affaire d'urbaniste ou de promoteur. Et dans le cas de, dans le cas du Guggenheim, que Tom Kranz, le directeur donc, du Guggenheim, propose à la ville de New York qui avait lancé une consultation sur l'aménagement du sud-est de la péninsule. Vous voyez ici donc, ce bâtiment, il est construit sur l'eau, ce qui permet évidemment de créer des terrains constructibles. Là, il n'y en a point, mais dans le même temps, il supposait de très très grandes modifications du zoning. Donc le projet, cette espèce de nuage de titane, ainsi qu'il sera décrit par le New York Times, puisque vous voyez que la forme de Bilbao est en quelque sorte entrée en lévitation au-dessus de l'eau. Rappelez-vous de la forme en titane de l'emballage en titane de l'ossature d'acier de Bilbao, elle reposait fermement au sol. Ici, elle s'élève, ce qui pose des problèmes de droit aérien sur l'eau qui ne seront pas faciles à résoudre. Mais surtout, dans ce cas, la maladresse du directeur du Guggenheim, de Kranz, qui ne négocie ni avec son propre conseil, ni avec le gouverneur Pataki, ni avec le maire de l'époque, Giuliani, n'arrange pas le projet, qui est un projet très coûteux, de l'ordre du milliard de dollars, c'est-à-dire plus de 10 fois plus que Bilbao. Et évidemment, il sera très facile pour tout le monde de prendre prétexte du 11 septembre 2001 pour ne pas faire ce projet, pour l'abandonner. C'est un projet qui avait aussi agité les gazettes, et j'évoquerai à ce propos cette caricature de New York Magazine qui nous montre Gary en train d'envelopper, en train de draper son bâtiment au milieu d'introduire au fond une sculpture dont beaucoup craignaient ce qu'ils considéraient comme devant être le mauvais goût, planter donc cette sculpture au milieu de la ville. Autre concours, très important celui-ci, et nouvelle grande frustration pour Gary, à qui New York n'a pas souri avant longtemps. Donc c'est le concours pour le siège du New York Times, qui était implanté dans New York, dans Manhattan. Le propriétaire du New York Times, Arthur Ox Sulzberger Jr., lance ce concours avec l'idée de séparer l'imprimerie, d'évacuer l'imprimerie de Manhattan, de créer un immeuble de bureau dont le New York Times n'occuperait qu'une partie, avec une très grande salle de rédaction au niveau du sol, donc un bâtiment très public, et il lance un concours. Gary participe au concours avec David Childs de SOM et travaille énormément à élaborer ce projet, en parallèle avec des architectes comme Norman Foster, Cisa Pelli et Renzo Piano. Donc voici les dessins du Times. Vous voyez que Gary, cette fois-ci, est comme tétanisé par Manhattan par rapport au projet précédent. Il y a un effet de contexte. Ces bâtiments deviennent, on reste pyramidaux, mais sont beaucoup plus disciplinés. Ils travaillent beaucoup, notamment sur la, on le voit ici, sur la trame, sur la grille du mur rideau. Ils travaillent aussi sur l'épaississement de la base, ici, qui devient cette espèce de grand hall ouvert que demandait le programme. Ils travaillent sur le sommet, bref, les thèmes classiques du gratte-ciel, mais ils le font dans des conditions beaucoup plus disciplinées. Une référence apparaît d'ailleurs au cours du travail. Vous voyez, ce croquis est assez important car il nous montre comment le gratte-ciel semble s'extraire ou être extrait par la magie du crayon d'une forme en bloc. Et Gary comparera ceci aux esclaves de Michel-Ange. Et écrivant, ce projet, c'était comme si je sculptais dans du marbre. Vous devez trouver la sculpture dans le bloc de marbre. Vous le voyez dans Les Esclaves de Michel-Ange, par exemple, où il a laissé le marbre brut intact. Il n'avait pas une image, un dessin sur la base duquel il pouvait travailler. Il a trouvé la forme dans le marbre. C'est la même chose dans mes dessins. J'ai dans mes dessins une liberté que j'aime exprimer dans mon architecture. Et donc, nous voyons bien quelle est la fonction du dessin ici. Avec la pointe du feutre ou de la plume, vous arrivez à dégager progressivement des formes plus complexes à l'intérieur d'un bloc relativement simple. Donc en tout cas, c'est ce que Gary fait ici et ce qu'il continuera à faire avec de multiples maquettes. On voit ici seulement quelques-unes des maquettes qui commencent par être des maquettes en bloc de bois. Vous voyez ici une torsion infligée au bois dans cette version, un emballage d'une enveloppe de métal, comme on l'a vu auparavant, et puis vous voyez progressivement les formes devenir plus lyriques et se détraquer un peu dans cette version. Gary travaillera longtemps à ce projet avant de trouver un parti définitif. Vous le voyez ici, donc un gratte-ciel dont le sommet aurait été translucide, certainement pas comme sur la maquette, mais il n'aurait pas été minéral comme ceux des gratte-ciels des années 30. Un gratte-ciel fendu en deux avec un très grand patio et ses escalators desservant les étages inférieurs et une très grande ouverture au public. Ce qui est important dans ce projet, je me souviens d'en avoir parlé avec Gary à l'époque, c'est la recherche que l'on trouve dans le couronnement. L'idée de Gary était de trouver dans ce couronnement une sorte d'inachèvement, comme les peintres peuvent le produire de l'extrémité du pinceau, lorsque le pinceau, la touche du pinceau vient s'alléger, car le pinceau a perdu la charge de la couleur. Et donc cette idée d'une forme qui s'évanouit sur le bord, très difficile évidemment à réaliser avec des matériaux de construction, avec de l'acier et du verre. C'est un peu ce qui inspirait Gary dans cette quasi-flamme ici. Donc un très beau projet. Gary semble avoir été très près de remporter la commande, mais lorsque le New York Times, et c'est une information que donne Goldberger, lorsque le New York Times lui demande s'il sera capable de venir toutes les semaines à New York pour s'occuper du projet, il refuse. Et c'est donc Renzo Piano qui construit le bâtiment. Vous le voyez ici dans son site, et vous voyez le couronnement. Il est intéressant de voir le couronnement de Piano comparé dans sa rigidité, mais aussi sa clarté constructive, de le comparer à celui de Gary. Un autre projet new-yorkais qui n'est pas à proprement parler un gratte-ciel, mais qui est une étape dans la matérialisation de ce travail sur l'enveloppe, c'est le siège de l'entreprise de Barry Diller, qui se trouve sur l'Hudson River, désormais dominé par un bâtiment de nouvelles qui est une sorte d'hymne à la fenêtre, avec des centaines de fenêtres différentes assemblées. Ce bâtiment dérive d'un projet intéressant, qui n'est pas un gratte-ciel en tant que tel, mais qui est un étage d'un gratte-ciel. Et c'est ce projet que vous voyez à droite. La cantine, on dit plutôt à New York la cafétéria, je dis la cantine de Condé Nast, qui est le principal groupe de presse américain, qui publie Harper's Bazaar, Vanity Fair, etc. Non, pardon, qui publie Vanity Fair, Vogue et Architectural Digest. Eh bien, Cy Newhouse, le président de Condé Nast, avait commandé la cafétéria de ses employés à Gary, qui, vous le voyez ici, avait créé un univers tout à fait étonnant de parois de verre sculptées, de parois de verre moulées en trois dimensions. Travail extrêmement difficile sur le verre qui avait demandé énormément de recherches technologiques et que Gary avait fini par réaliser. Donc un très beau bâtiment. Et vous voyez ici comment pour Barry Diller, client assez difficile au demeurant, il va travailler à retrouver des formes courbes en verre, pas simplement des formes, on sait depuis longtemps, plier ou arrondir le verre, mais ici des formes beaucoup plus complexes qui, dans le même temps, sont sérigraphiées de manière à casser la lumière excessive du soleil et à moduler aussi ce que vous voyez ici, à moduler la lumière du soir. Voici quelques croquis de préparation à ce bâtiment. Vous voyez que la forme initiale était plus une forme de silo parallèle qu'une forme pyramidale, et finalement, elle évoluera dans ce sens de la superposition. Diller étant fasciné par la navigation à voile, c'est un peu le thème des voiles blanches au vent qui est utilisé pour ce bâtiment. Donc voici le plan, c'est un plan peu plus complexe que celui d'un gratte-ciel habituel, et l'intérieur, notamment le rez-de-chaussée avec un gigantesque écran numérique qui donne à ce bâtiment une certaine présence sur le trottoir de l'Hudson le soir. Un autre projet new-yorkais, vous voyez qu'il y en a beaucoup, il faut rater beaucoup de projets avant de pouvoir en faire un. C'est un hôtel qui était prévu pour Jan Schrager, entrepreneur hôtelier, à New York. Et vous voyez à nouveau cette question du textile, le bâtiment conçu comme un squelette habillé au sens propre. Le terme d'habillage, on l'utilise en architecture et en décoration, mais jamais de manière littérale. Ici, le gratte-ciel aurait été littéralement habillé. Dans le même temps, c'est un gratte-ciel dont la forme va se dédoubler, et ce qui va amener Edwin Chan, l'assistant de Gary qui travaille sur le projet, à insister sur le rapport avec Flavin. Vous voyez ici la dissociation en deux et aussi la forme pyramidale du projet. Chan insiste sur le jeu, un jeu qui provient de ces sculptures de tubes de néon de Flavin et son jeu avec le positif et le négatif. Un autre projet pour New York, un autre échec, c'est un projet très important quantitativement puisqu'il intervient sur un terrain d'environ 5 ou 6 hectares en plein centre de Brooklyn sur des terrains qui étaient des terrains ferroviaires. Donc le thème est un thème d'actualité à New York où il avait été traité depuis, mais pas vraiment traité à nouveau depuis Grand Central Station exactement 100 ans auparavant. Donc vous voyez ici une caractéristique du travail de Gary sur ces gratte-ciels sur laquelle j'attire votre attention. On a vu des maquettes isolées, une tour et sa base, mais dans la plupart des cas, les maquettes sur lesquelles il travaille, même s'il s'agit de construire un élément isolé, sont des maquettes urbaines de très grande taille qui permettent de comprendre l'impact d'un bâtiment dans la skyline, qui permettent de maîtriser les points de vue depuis les couloirs d'approche au sol. Donc de très grandes maquettes. Ici, c'est le cas, mais et on peut en voir d'autres. Voici donc le centre de Brooklyn avec le gratte-ciel qui dominait jusqu'à présent, et le projet, qui était un projet donc, perché sur les voies de chemin de fer, mais aussi centré autour d'un stade. Donc l'idée était d'utiliser le gratte-ciel, était d'utiliser les recettes à la fois pour procéder à la couverture des voies, et pour enclore le stade. Voilà ici la dissémination des tours. C'est comme si pratiquement toutes les variantes du New York Times que vous avez vues auparavant étaient toutes assemblées dans un seul projet. Ce qui est d'ailleurs une règle aussi dans cette espèce de processus itératif dans lequel un projet nourrit un autre. Et l'arène était ici. La pièce centrale, la principale, se trouvait ici, sur la pointe de ce territoire. C'était une tour qui sera baptisée Miss Brooklyn et qui est intéressante parce que, avec ce projet, Gary retrouve la logique de l'empilement. Les projets que nous venons de voir étaient plutôt des projets dans lesquels il travaillait sur des faisceaux de grandes formes verticales. Ici, c'est la logique de l'empilement, la logique du déhanchement peut-être, du changement d'orientation de chaque étage, d'où sans doute le titre Miss Brooklyn, et surtout au milieu, le stade. C'est un croquis qui nous montre le stade au milieu du bâtiment, complètement encerclé. Les stades, en général, sont des formes assez vilaines et assez expansive. Ici, le stade aurait été cadré par le bâtiment. Voilà quelques croquis qui nous montrent cette logique de l'empilement, presque jusqu'à la lassitude du dessinateur, cette logique de l'empilement qui génère ces projets. C'est un projet qui va rencontrer beaucoup d'opposition, à la fois parmi les citoyens de New York et parmi les critiques. C'est notamment Nikolai Urosov, critique du New York Times, qui en général a toujours soutenu Gary, lui conseille d'abandonner ce projet, qui finalement serait une tache sur sa trajectoire. Et ce n'est pas Gary qui finit par abandonner le projet, mais le projet qu'il abandonne. lorsque le promoteur, Bruce Ratner, le chasse pour confier le projet, pour démanteler le projet et en confier des morceaux à d'autres architectes. Alors le succès arrive finalement à Gehry, à New York, et voici donc ce que je vois depuis ma fenêtre quand je suis à New York. Je vois le World Trade Center reconstruit et la tour de Gehry qui a été longtemps la plus haute tour, pas si longtemps que ça, la plus haute tour d'habitation de New York. Vous voyez comment elle est vendue, New York by Gehry. C'est quand même assez comme s'il signait, il pouvait être considéré comme étant l'auteur du paysage découvert depuis l'intérieur du bâtiment. Et ce que l'on voit quand même sur cette photo, qui est intéressant et on va y revenir, c'est que c'est un bâtiment qui regarde New York, mais qui se regarde aussi et qui, je dirais, se regarde regardant New York. Alors Gehry est très, très, très angoissé à l'approche lorsqu'il aborde ce projet et il essaye de rompre avec la réglementation. Construire en fonction de la réglementation aurait abouti, en appliquant la réglementation de façon extrême, c'est-à-dire en faisant un bloc vertical, aurait été maladroit. Et donc, il va s'intéresser à cette construction pyramidale avec des retraits, d'autant plus que le bâtiment se trouve en face du Woolworth Building. Donc, vous voyez ici, ce projet s'explique beaucoup avec ce croquis, dans lequel Gehry, la dimension contextuelle du travail de Gehry se développe. Vous voyez ici comment il essaye de trouver des relations entre l'expression de façade du Woolworth, entre les moments, les décrochements du Woolworth et son projet. Il le fait au prix d'un travail considérable en maquette. Vous voyez quelques-unes des maquettes qui ont été réalisées, et c'est donc un projet intéressant à cause justement de ce travail qui n'est pas, contrairement au précédent, dans la logique sédimentaire, qui est dans la logique du faisceau. Faisceau de parallépipèdes, faisceau de forme plus triangulaire, faisceau de forme torsadée, torsade complète. Donc c'est une recherche très, 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 très poussée dont on voit une expression ici dans une exposition de certaines des maquettes, un travail aussi sur le revêtement lui-même, intéressant parce que vous voyez déjà ici que le bâtiment a une base qui est assez différente, je vais y revenir, un travail sur le revêtement qui va être consommer une grande partie de son énergie. Ici, le bâtiment tel qu'on le trouve aujourd'hui dans la skyline du bas de Manhattan, tel qu'on peut le découvrir depuis le premier bâtiment reconstruit du World Trade Center, tel qu'on peut le voir au crépuscule, prenant la lumière et devenant très, très cuivré au crépuscule. Et vous voyez à droite les sections, où ils ne sont pas des élévations mais des coupes, qui nous montrent la partie basse du bâtiment, qui est en fait une école primaire que le promoteur a dû reconstruire car il avait pris une partie de son terrain. Donc c'est un bâtiment mixte, une école et des logements locatifs au-dessus. Dans l'expression de façade du bâtiment, qui est une façade d'acier, Gehry va évoquer un précédent différent de ceux que j'ai eu l'occasion de mentionner jusqu'ici. Il écrit « J'ai eu un de ces moments eureka » et à 3h du matin, quand j'ai pensé au Bernin. Michel-Ange est rond, Bernin est plus anguleux. Et c'est donc ce qui a plu à Gehry alors qu'il essayait d'arranger les éléments, les panneaux de sa façade que vous voyez ici. Vous voyez que cette façade est faite d'éléments extrêmement nombreux et tous divers. Je crois qu'il y a au total 10 000 panneaux dont seulement 2 000 sont sérielles, tous les autres sont des panneaux individuels dessinés avec l'ordinateur et les systèmes dont j'ai déjà parlé. Vous voyez ici comment ces panneaux peuvent être légèrement différenciés dans leur courbure de manière à créer de longues lignes sur la façade qui se résolvent avec des courbures à chaque fois différentes. Donc, ce travail très très complexe qui n'est pas un travail d'ondulation mais plutôt de nervurage pour lequel l'extase peut-être pas très religieuse de la Sainte Thérèse du Bernin, est une référence possible. Guéry écrit ailleurs: « Une des grandes influences sur moi fut celle de l'artiste italien Gian Lorenzo Bernini. La première fois que j'ai vu cette sculpture de la Sainte Thérèse, qui est, je vous le rappelle, dans l'église Santa Maria della Vittoria à Rome, c'était en 1960. J'ai toujours été fasciné par les plis. » On a vu en tout cas cette dimension textile aujourd'hui dans certains de ces projets. Et dans cette tour, nous utilisons les plis du Bernin pour fabriquer la façade. Donc voici cette façade. Voici la partie basse du bâtiment avec l'école, qui est une école absolument standard, correspond aux règles de la ville de New York. Et puis ensuite les éléments d'accès qui permettent d'arriver dans les étages. Voilà le plan du bâtiment lui-même en forme de T, avec un couloir cruciforme et des appartements qui se développent, vous le voyez ici, à partir d'une géométrie orthogonale à l'intérieur. Guéry n'a pas fait les plans d'appartements, et donc ce sont des plans qui ont été faits par des architectes tout à fait au fait des règles du marché immobilier de New York. Je souligne simplement l'extraordinaire surface consommée par les trois salles de bain de cet appartement. Et vous voyez, en tout cas, ce qui me semble important ici, c'est donc de bien voir la richesse des points de vue, notamment des points de vue que l'on peut avoir, et ce qui est assez exceptionnel dans un bâtiment de ce genre, du bâtiment vers lui-même, et pas simplement du bâtiment vers la ville. Voici ce que cela donne, photographie publicitaire qui nous montre à la fois la piscine au sommet, en plein ciel, et puis ses relations avec le paysage urbain, notamment cette présence tangentielle d'une des ailes du bâtiment vue depuis l'intérieur. D'autres projets de gratte-ciel se multiplient dans cette phase, réussis, construits ou non. Ce projet d'un centre de loisirs à Brighton, en Angleterre, où l'on retrouve l'idée du projet pour l'Alameda de Mexico City, une espèce de joyeuse troupe de gratte-ciel qui semble se mettre en route vers une destination mystérieuse. Un projet pour Barcelone, pas réalisé non plus, qui aurait dû conclure la Sagrera, cette espèce de grand espace linéaire par lequel le TGV arrive de France. Vous voyez ici cette idée de faire un gratte-ciel qui aurait été une sorte de figure de proue. Il a presque ce mouvement d'une figure de proue au bout de cette trouée, non réalisée. Un autre projet ici pour Monte Carlo, où Guéry a été consulté avec Colas et Christian de Porzamparc pour réaliser un ensemble de tours en bord de mer et même sur des terrains gagnés sur la mer. Donc, vous voyez ici cette maquette qui est assez intéressante, avec ce drapé. Toujours cette dimension textile, est-ce un drapé ou est-ce un froissé? Dans une autre version, les gratte-ciels sont détaillés et construits avec un squelette extérieur, avec une ossature extérieure, à partir de laquelle les niveaux auraient été suspendus. Donc une version assez hardie de ce projet, peut-être sera-t-elle réalisée sous une forme ou sous une autre, et peut-être ailleurs. Et je rapproche évidemment cette image, cette structure, faite de lanières, de la structure, des chaises, des sièges étudiés pour Knoll. Encore une fois, le saut d'échelle appliqué à un bâtiment, une figure utilisée pour le mobilier ou l'inverse, est une pratique courante de Guéry. Un autre projet infructueux, le programme a été abandonné, c'était une sorte de concours pour un musée-centre d'archives à Andorre, donc que Guéry dessine dans le site montagneux. Vous voyez ici, cette image est intéressante parce qu'elle nous montre comment le projet a été constitué par une sorte de processus d'accumulation, d'amalgamation et de conjugaison de volumes, des volumes internes, puisque c'était un projet assez complexe et pas du tout un projet d'immeuble de bureau avec des niveaux répétitifs. Donc c'était un projet qui agglutinait des composantes diverses. Voici la maquette en bois. Et la maquette elle-même, la maquette finale, est extrêmement intéressante parce qu'elle utilise une matière tout à fait nouvelle dans le travail de Guéry. L'idée était d'utiliser des éléments constructifs en aluminium dilaté, une espèce d'aluminium fondu sous pression. Et donc, on perçoit ici les éléments de la circulation verticale et on a l'impression que ce bâtiment est une sorte de monolithe tombé d'une autre planète traversée par ces circulations. Donc, c'est un projet d'une certaine beauté mystérieuse qui n'a pas été réalisé. Un autre projet dont le destin me semble incertain aujourd'hui, à tel point que je n'ai même pas donné la date, il a été étudié entre 2008 et 2010 pour un petit port danois. C'est un projet de bureaux, d'hôtels et d'équipements culturels. Vous voyez comment on est parfaitement, illustre à mon avis, parfaitement la logique sédimentaire, accumulative, comme on le voit sur cette photo de maquette. Il illustre aussi la logique textile. Et voici une des tours pour le projet qui semble être une sorte de capuchon de tissu posé sur une ossature, mais pas du tout avec l'élancement du projet que l'on voyait pour Times Square. Donc un projet un peu trapu, peut-être un peu maladroit. En tout cas, on n'aura pas l'occasion de vérifier ses qualités. Je termine avec quelques projets pour les grandes villes. Los Angeles, depuis très longtemps, Gary, qui a construit le Walt Disney Concert Hall, dont je parlerai la semaine prochaine, s'intéressait au destin malheureux du centre de Los Angeles, qui est une sorte de juxtaposition entre, pour prendre des figures parisiennes, c'est la Défense rencontre Barbès. Donc, nous sommes plutôt du côté de la Défense ici, qui est un paysage assez désolé, où Gary avait travaillé à créer une animation au niveau du sol avec des commerces et des bâtiments divers. Projet de 2006 abandonné, repris aujourd'hui avec Eli Broad, le promoteur dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un projet qui est en cours de développement aujourd'hui et qui semble avoir reçu l'accord de la ville, essentiellement des hôtels, des logements de luxe et quelques logements accessibles, 20% du total, pour faire passer la pilule. Alors, projet en cours. Il y en a deux, et je terminerai avec ceci. Le premier, c'est un retour en fanfare dans la ville natale de Gary, à Toronto, pour construire initialement trois et désormais deux tours. Vous voyez vous avez cette image de Toronto et du lac, et une ville où se trouvent quelques gratte-ciels de distinction, notamment le Toronto Dominion Center de Miss Van der Rohe, et beaucoup de gratte-ciels médiocres. Donc Gary a été recruté par un personnage du nom de David Mervish, qui est un producteur de théâtre, a coquiné avec des promoteurs pour créer au centre de la ville, là où se trouvent la plupart des théâtres, trois tours qui sont des tours d'habitation. Donc, vous voyez leur présence dans le site à côté de du grand mât qui s'appelle TC Tower, Canadian Corporation Tower. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est une nouvelle logique qui apparaît ici, dans ce projet. Donc on n'est plus simplement dans l'assemblage des faisceaux verticaux, on n'est certainement pas dans les sédimentations, on est dans le mur rideau qui perd la tête, le mur rideau qui vraiment ne sait plus se tenir et qui devient une espèce d'assemblage assez hallucinant. On est dans le froissé ou dans le papier froissé ou plutôt dans les surfaces courbes et cependant réglées, assemblées comme des éclats autour de l'ossature. C'est aussi un bâtiment qui est intéressant, un ensemble qui est intéressant dans ses parties basses. Gary conserve un théâtre et peut-être quelques autres locaux dans cette variante du projet. Et vous voyez que le reste de ces équipements de rez-de-chaussée se déploient. Et c'est une image à laquelle Sullivan n'aurait pas pensé, puisque le mur rideau n'existait pas. Ce système se déploie en quelque sorte sous les jupes des gratte-ciels. En voici un exemple ici qui est assez intéressant. Pensez au spectacle de la rue dans lequel nous retrouvons ces voilées vrillées qui étaient présentes au sommet du projet pour le New York Times sous la forme d'une sorte de flamme et qui ici viennent à toucher le sol. Le projet qui est en cours de développement et qui semble destiné à se construire a été réduit à deux tours qui sont devenus beaucoup plus sages. Et donc vous voyez ici la dernière version où les grandes envolées volumétriques ont été abandonnées, sans doute pour des raisons financières. Ce sont des structures, comme l'a montré le projet de la Fondation Vuitton, extrêmement coûteuses à réaliser et qui le sont encore plus dans le contexte d'un gratte-ciel soumis à une pression de vent absolument violente et sans commune mesure avec celle de Paris. Donc voici le résultat. Et le dernier projet est un projet pour Berlin. C'est un projet de tour d'habitation qui a été confié à Gehry par le promoteur américain Heinz, pour lequel il avait déjà travaillé. Ce projet s'inscrit dans le réaménagement de l'Alexanderplatz, pour laquelle un concours avait été organisé en 1993, remporté par Hans Kohlhoff. Donc vous voyez ici la gare de Berlin-Alexanderplatz, les bâtiments construits par Peter Behrens dans les années 30, entre 30 et 32, après un premier concours. Vous voyez ce qu'il faut pour faire une place de ville, un concours en 29-30, deux bâtiments, la guerre, un concours en 93. Et voici aujourd'hui la situation. Donc la gare est ici, la tour de télévision est là, et voilà le terrain sur lequel Gehry implante son bâtiment, qui est un bâtiment dans lequel nous retrouvons le travail sur les faisceaux verticaux et la torsade. Et donc c'est un projet intéressant. Pourquoi une certaine dimension mimétique dans l'utilisation de la brique et surtout une géométrie de la torsade qui reste acceptable dans le contexte extrêmement coincé et rigide de la réglementation et du contrôle des bâtiments de Berlin, où, contrairement à New York, ce ne sont pas les avocats qui parlent aux avocats, mais les promoteurs et les élus qui doivent se défendre devant la population. Projet apparemment lancé et dont le résultat pourra être peut-être apprécié un jour. Merci.